Laudetur Jesus Christus.
De nouvelles sanctions annoncées contre l'Iran de la part de l'Union européenne. Les 27 ont annoncé viser la production de drones et de missiles qui ont servi notamment à agresser Israël le week-end dernier. Les leaders européens qui invitent dans le même temps l'État hébreu à tempérer sa volonté de riposte. Nous y revenons au début de ce journal. Un rapport d'Amnesty International accablant pour les forces kurdes en charge de gérer des camps de prisonniers dans le nord-est de la Syrie. Il s'agit pour la plupart d'anciens combattants de Daesh et de leurs familles. L'ONG dénonce torture et mauvais traitements. À la une de ce journal également, la Géorgie en ébullition après le vote d'une loi controversée hier sur les agents de l'étranger qui est calquée selon ses détracteurs sur le modèle russe. Nous reviendrons aussi sur ces importantes inondations qui ont frappé le Pakistan et l'Afghanistan ces derniers jours. Et puis, à la une de notre dossier ce matin, le Liban, où les écoles catholiques, piliers du pays, souffrent de la profonde crise économique et sociale. Notre invitée, sœur Marie-Antoinette Saadé, directrice d'école. Elle est la supérieure de la congrégation maronite de la Sainte Famille.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour. Les pays membres de l'Union européenne promettent donc de nouvelles sanctions contre Téhéran, annonce faite hier lors d'un sommet à Bruxelles. Ces sanctions doivent viser des sociétés de production de drones iraniens et de missiles. Un message clair de soutien à Israël après l'offensive iranienne le week-end dernier. Alors que l'État hébreu envisage toujours une éventuelle riposte, les Européens ont réitéré dans le même temps leurs appels à une désescalade. Des appels portés hier à Jérusalem par les chefs de la diplomatie allemande et britannique. Ariane Ménage.
Depuis l'attaque iranienne, ils sont les premiers chefs de diplomatie étrangers à faire le déplacement en Israël. Un geste de solidarité et surtout une tentative de faire pression sur Benjamin Netanyahou et son gouvernement. À Jérusalem, David Cameron et Annalena Baerbock ont multiplié les appels à la retenue, d'abord lors d'une réunion avec le président israélien, puis avec le ministre des Affaires étrangères. Leurs appels n'empêcheront pas une riposte israélienne contre Téhéran. Il est clair que les Israéliens ont décidé d'agir, affirme David Cameron. Mais Berlin et Londres espèrent faire pression pour limiter l'ampleur des représailles, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'escalade, ajoute le chef de la diplomatie britannique. Depuis l'attaque inédite de l'Iran le 13 avril dernier, Benjamin Netanyahou a réuni quasi quotidiennement son cabinet de guerre. Mais jusqu'ici, Israël est resté silencieux sur la nature de sa riposte envisagée. Pour le Premier ministre israélien, aux pressions internationales s'ajoutent celles de l'opinion publique et des partenaires de sa coalition, eux-mêmes divisés sur la stratégie à adopter. À Tel Aviv, Ariane Ménage pour Radio Vatican.
Dans la bande de Gaza où les opérations de l'armée israélienne se poursuivent, la situation humanitaire reste critique malgré l'entrée ces dernières heures de camions d'aide de l'ONU depuis le port israélien d'Ashdod, situé au nord de l'enclave. Hier, le secrétaire général de l'UNRWA, l'agence de l'ONU en charge des réfugiés palestiniens créée en 1949, a une nouvelle fois défendu son institution alors qu'Israël l'accuse de collaborer avec le Hamas. L'agence qui reste la colonne vertébrale des opérations humanitaire à Gaza, a rappelé Philippe Lazzarini devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Le démantèlement de l'agence risquerait d'accélérer l'arrivée de la famine, s'est-il aussi inquiété. Hier, à l'issue de l'audience générale place Saint-Pierre, le pape François lançait un vibrant appel pour demander la libération des prisonniers de guerre. Le Saint-Père a une nouvelle fois tourné son regard vers la Terre Sainte et vers l'Ukraine en particulier. Il a dénoncé aussi les tortures dans les prisons qui portent atteinte à la dignité de la personne. Des mots qui font écho à ce nouveau rapport d'Amnesty International sur les camps de prisonniers tenus par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Il y a les conditions de vie déplorables, mais aussi les humiliations publiques, les passages à tabac, la torture ou les disparitions forcées. Après avoir recueilli ces derniers mois plus de 300 témoignages, Amnesty accuse les autorités kurdes qui contrôlent la zone de crimes de guerre à l'encontre de 56 000 personnes détenues dans 27 centres de rétention et deux camps où sont enfermés les anciens combattants de Daesh et leurs proches. Jean-Claude Samouillet, le président d'Amnesty France, nous explique ce que son ONG attend des Kurdes et de la coalition menée par Washington qui les soutient encore financièrement.
L'une de nos demandes à la coalition, et notamment aux États-Unis, c'est qu'ils renforcent les moyens avec des exigences, c'est-à-dire demander à ce que le système qui vaut aujourd'hui soit aligné sur les normes internationales d'incarcération, que les criminels d'État islamique rendent des comptes, il faut rapatrier les étrangers dans leur pays d'origine, mais également que les auteurs des violations qui sont commises dans ces camps rendent des comptes aussi. Il faut veiller à ce que les violations dans les camps cessent et ouvrir des enquêtes pour torture et décès. Il y a un tel ressentiment qui est exacerbé qu'on pense que des gens peuvent rejoindre finalement l'État islamique, hein, puisque ceux qui combattent l'État islamique ne sont pas capables d'offrir des conditions de vie dignes dans ces camps de détention. Peut-être que des personnes vont dire, bah, après tout, pourquoi pas rejoindre l'État islamique qui fait du recrutement. Et notamment, nous, ce qui nous fait peur en particulier, c'est l'incorporation des jeunes garçons pour qu'ils deviennent des enfants soldats dans ce genre de groupe armé.
Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France, interrogé par Marie Duhamel. En Russie, la Cour suprême annule une audience en appel de l'opposant Vladimir Karamurza. Celui-ci purge une peine de 25 ans de prison pour trahison. La Cour exige qu'il puisse assister physiquement à l'audience, mais celui-ci est emprisonné dans une colonie pénitentiaire en Sibérie et bien trop faible pour effectuer le voyage, selon ses avocats. Karamurza, 42 ans, qui a été victime deux fois d'empoisonnement qu'il attribue au pouvoir russe. L'opposition à un projet de loi sur l'influence étrangère ne se dément pas en Géorgie. Hier, près de 20 000 personnes ont manifesté devant le Parlement à Tbilissi, la capitale, avant de marcher vers les bureaux du Premier ministre. Le projet du gouvernement divise la société géorgienne, tiraillé Xavier Sartre entre son attachement à la Russie et sa volonté de se rapprocher de l'Union européenne.
Oui, le ton est donné, Olivier. Non à la loi russe. Les opposants au texte approuvé en première lecture hier le comparent à la loi russe sur les agents de l'étranger. S'il devait être définitivement adopté, les organisations qui reçoivent plus de 20% de leur financement de l'étranger seront obligées de s'enregistrer en tant qu'organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère. Pour le gouvernement, il s'agit de faire preuve de davantage de transparence dans le financement de ces ONG. Pour les détracteurs, au premier rang desquels la présidente de la République, il s'agit d'une manœuvre inspirée par la stratégie russe de déstabilisation. L'Union européenne, que Tbilissi aimerait rejoindre, a demandé le retrait du texte, estimant que le vote d'hier était très inquiétant. Les États-Unis sont du même avis. Si le Premier ministre Irakli Kobakidze affirme et répète à l'envi l'intention de sa majorité de porter la Géorgie vers l'UE et l'OTAN, il est donc loin de convaincre de ses véritables intentions. Les opposants voyant davantage se profiler Moscou que Bruxelles. Les manifestants espèrent en attendant que leur mobilisation fera reculer le pouvoir comme ils étaient déjà parvenus à le faire en mars 2023 lors de la présentation d'une première version de ce projet vite abandonné.
Xavier Sartre. Des milliers d'habitants de la région russe d'Orenbourg, non loin de la frontière avec le Kazakhstan, invités à évacuer leur maison en raison des inondations qui frappent la région. C'est toute l'Asie centrale qui est touchée par des pluies diluviennes ces derniers jours. Le Pakistan et l'Afghanistan sont aussi noyés sous des trombes d'eau, les deux pays qui subissent de plein fouet les effets du changement climatique. Les précisions de notre correspondant régional Emmanuel Derville.
Les précipitations qui s'abattent sur le Pakistan depuis plusieurs jours sont inhabituelles. D'ordinaire, c'est durant la mousson l'été que les pluies font déborder les fleuves et déclenchent des inondations. Les trombes d'eau, accompagnées d'orages, ont provoqué l'effondrement de plusieurs maisons, faisant une vingtaine de morts et une trentaine de blessés. Des routes, des ponts ont été emportés. C'est la cinquième fois en moins de 15 ans que les pluies diluviennes ravagent la région. Les précipitations frappent également la province du Baloutchistan et la capitale économique, Karachi, depuis le début de la semaine. Le Baloutchistan est l'une des régions les plus arides du pays en temps normal et les infrastructures ne sont pas du tout adaptées pour recevoir autant d'eau. L'Afghanistan voisin a aussi été frappé par cette météo dévastatrice. Les autorités talibanes ont recensé près de 70 morts, ainsi que des centaines de têtes de bétail et un millier de maisons perdues. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
Les enfants, les effets du changement climatique qui se ressentent aussi sur le continent africain en témoignent la chaleur meurtrière qui a frappé les pays du Sahel au début du mois d'avril. Avec des températures au-delà des 45 degrés, le Mali et le Burkina Faso ont été particulièrement affectés. C'est l'empreinte de l'homme qui est derrière ces changements du climat, rappelle ce jeudi le WWA, le World Weather Attribution, un réseau international de scientifiques qui publie régulièrement des études sur le climat. Et puis en Indonésie, les services de secours sont mobilisés aujourd'hui pour évacuer plusieurs milliers de personnes qui sont menacées par un volcan en éruption dans le nord de l'archipel. Et ce, après une alerte contre un risque de tsunami si des débris du volcan tombent en mer. Dans notre dossier ce matin, nous vous emmenons au Liban, le pays du cèdre qui peine à sortir d'une spirale infernale. Depuis 2019, la crise économique, marquée par l'effondrement de la livre, s'aggrave. Les institutions libanaises sont paralysées par les divisions politiques. Et à cela s'est ajoutée l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, ainsi qu'une guerre, celle qui oppose Israël et le Hamas. Une guerre qui empiète chaque jour un peu plus sur le territoire libanais. Depuis plusieurs années, un secteur souffre particulièrement au Liban, celui de l'enseignement catholique. Le pays du cèdre compte 320 établissements catholiques, un maillon essentiel au service de toutes les communautés libanaises. Aujourd'hui, certaines écoles ont dû fermer faute de financement. Le salaire des professeurs est extrêmement bas. Le système éducatif est porté grâce à la générosité de donateurs et d'associations comme l'Œuvre d'Orient. Pour nous en parler ce matin, nous sommes allés rencontrer Sœur Marie-Antoinette Saadé. Elle est supérieure de la congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille, directrice d'une école à Jounieh, au nord de Beyrouth. Elle revient sur une situation particulièrement inquiétante pour ce réseau éducatif dans un pays qui s'appauvrit de jour en jour.
On est au creux de la vague encore et plusieurs écoles de chez nous sont menacées. Mais nous essayons à les porter à bout de bras, on essaye de garder la tête au-dessus de l'eau. Parce que si on ferme une école, c'est dramatique, c'est-à-dire on est en train de fermer dans les régions périphériques, dans les régions rurales, dans les régions qui ont besoin vraiment de présence d'abord religieuse et ensuite de présence d'une école, parce qu'une école, c'est une roue économique. Elle fait travailler des gens, elle fait tourner la boutique, quoi. Elle fait tourner le commerce, elle ouvre le village aux gens qui sont là, vous voyez, donc...
Et ce que vous dites, c'est au-delà de la crise même, qui a rendu les études très chères, qui a appauvri les gens, il y a des déséquilibres socio-économiques qui se creusent au Liban entre les grandes villes, Beyrouth, et les zones plus pauvres. Déjà, c'est ça le risque?
Oui, forcément. L'impact négatif de la crise, c'est surtout, on le sent principalement dans les régions périphériques et rurales. C'est là où vraiment le problème est crucial. Maintenant, dans les villes, par exemple à Beyrouth ou à Jounieh, à Jbeil, dans les petites villes, il y a aussi beaucoup de familles, parce que ces familles sont issues aussi ce sont des familles qui ont émigré de leur village à la ville. Et donc là aussi, il y a des familles qui ont du mal à payer leur scolarité, qui ont par conséquent du mal à vivre, du mal aussi à se faire hospitaliser. Vous savez, parce que au Liban, on est dans un pays où il n'y a aucune structure d'accueil gratuite, aucune sécurité sociale, aucune assurance. Donc les gens peinent, vraiment. Ils peinent pour vivre.
Est-ce que vous imaginiez voir ces couches moyennes s'appauvrir autant?
Non, vraiment non. Moi, par exemple, j'ai vécu la première guerre, la guerre 75-90. J'ai vécu une bonne partie de cette guerre. C'était dramatique à l'époque, donc on était sous les bombes, on était dans les abris, mais les gens vivaient quand même. Il y avait de l'argent qui circulait, les gens avaient encore leur provision. Puis, après la guerre, il y a eu ce retour à la vie. On a reconstruit le Liban. C'est-à-dire, le peuple libanais est un peuple résilient, oui, mais en même temps, il a du ressort et il ne peut compter que sur lui-même. Les économistes nous disent, et les gens qui connaissent un peu les ficelles politico-socio-économiques, ils nous disent, ne vous attendez pas à des jours meilleurs dans les années à venir. Qu'est-ce que vraiment nous attendons de tout ça? Juste que nous puissions mener à bien notre mission et que nous puissions être au service de ces gens qui sont dans notre giron. Nous sommes responsables de toute cette population. Alors, comment faire? Sur qui on peut compter? Voyez, donc ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse et on ne peut compter vraiment que sur la providence et en même temps sur ces anges que le Seigneur nous envoie et qu'il met sur notre route.
Sœur Marie-Antoinette Saadé de la Congrégation des Sœurs Maronites de la Sainte Famille au Liban était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, ce sera à 13h en direct de Rome. Excellente journée à tous.